Bonsoir, j'aimerais vous partager une réflexion sur la loi de cause à effet, le karma. Lorsque le Bouddha a eu son illumination, ce qu'il a compris, ce sont les quatre vérités nobles et puis ce qu'on appelle l'origine interdépendante ou la... Comment ils disent ça, c'est tellement compliqué, la coémergence conditionnée. Enfin bref, ça va très bien de dire l'origine interdépendante. C'est-à-dire, en fait, d'explorer quand on dit que nous allons vers l'inconditionné, que nous sommes des êtres conditionnés. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Et quand nous chantons le chant du soir, où nous disons nous sommes responsables de nos actions et on en hérite le résultat. Dans cette origine interdépendante, tout commence par l'ignorance. Et l'ignorance, c'est la non-conscience, mais aussi la non-sagesse. Ce que nous développons dans une retraite, ça n'est pas seulement cette conscience de l'instant que vous avez maintenant, qui est maintenant, mais c'est aussi tout cet aspect de questionnement, comment faire pour être le moins attaché possible, pour avoir le cœur ouvert, pour être, parce que la qualité d'être a toutes les qualités. Donc au début, dit le Bouddha, il y a l'ignorance, qui est cette non-sagesse ou cette non-conscience. Et à cause de cette ignorance émergent les formations karmiques, où il y a une émergence de kilesa, les poisons de l'esprit, les formations non bénéfiques. Et que font ces formations non bénéfiques qui sont le monde des perceptions sensorielles négatives, c'est de celles-là dont on veut se libérer. Elles créent une conscience individuelle. C'est-à-dire que nous pouvons voir dans notre expérience, quand il y a quelque chose qui émerge, qui a du jus, ça crée ce sens du moi, cette conscience. La conscience est comme titillée. Et cette conscience titillée crée quelqu'un, moi, moi qui ai un problème, ou toi. C'est pareil, je crée quelqu'un. Donc c'est un processus, on pourrait dire, de séparation. Ça se sépare toujours plus. Et parce qu'il y a quelqu'un, un corps et un esprit, la porte des sens est ouverte. Il y a une sensibilité qui fait que le contact va être conscientisé. Claire parlait de ce contact. Et il est conscientisé à travers les sens, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je goûte, tout ce que le corps ressent, ce que je sens avec le nez, et beaucoup ce que je perçois et ce que je pense. Et ce contact crée toutes ces perceptions sensorielles ou les émotions perturbatrices. Et là, on va s'arrêter un peu, mais je vais d'abord finir. Il y a 12 passages. L'ignorance crée ces émergences karmiques, vu qu'elle n'est pas, la conscience n'est pas ouverte, ça émerge. C'est ce qui crée la conscience individuelle, c'est ce qui crée le sens du moi, C'est ce qui fait que les portes des sens s'ouvrent pour laisser passage au contact, qui est le sixième aspect, et à ses perceptions sensorielles ou aux ressentis, qui est le septième. Et alors, ce qui se passe là, et c'est là que nous avons un choix, j'y reviendrai, c'est que nous sommes attirés. Nous sommes attirés par les perceptions sensorielles bénéfiques. Et nous rejetons les perceptions sensorielles non bénéfiques. C'est ce qu'on appelle tanha, on l'a déjà un peu vu, la saisie ou la soif. Et cette soif se développe en agrippement ou en obsession, qui se développe en sens du devenir. Je me projette vers le futur et je commence à construire et je crée. C'est la naissance réelle dans l'instant de ce qui était, on pourrait dire, en graine ou en germe au départ. Et avec la parole et l'acte, je recrée une cause qui aura un effet. Alors c'est un peu compliqué, mais c'est bien de le prendre de temps en temps, parce que ça objectifie tout ce que nous prenons tellement personnellement. Nous sommes tous dans cette loi de cause à effet. Ça n'est pas mon problème. C'est le monde lui-même qui fonctionne de cette manière-là. Et le Bouddha a dit que, ou a montré comment, lorsque nous éclairons ce processus d'incarnation, de la parole et de l'acte, nous pouvons lâcher ce qui est non bénéfique et maintenir ce qui est bénéfique. Nous nous libérons. Et d'abord, nous regardons avec une lampe de poche. Après, la vue est plus nette. C'est comme si nous ouvrions un volet pour que la lumière vienne dans notre chambre intérieure. Et puis nous ouvrons tous les volets de tous les côtés de la chambre. On voit de tous les côtés. Et pour finir, dit le Bouddha, vous êtes au sommet de la montagne et il n'y a même plus de mur. C'est non seulement éclairé à l'intérieur, mais du moment que j'éclaire l'intérieur, ça éclaire tout l'extérieur. C'est le pouvoir de la pleine conscience. Et d'employer l'intellect pour se concentrer d'une autre manière, mais avec ce même but, qui est le but de la libération, c'est une partie du chemin qui est précieuse, qui n'est pas négligeable. Les perceptions sensorielles ou les émotions perturbatrices, lorsqu'elles n'ont pas la lumière de la conscience pour les mettre en présence, crée la saisie ou la soif. Et on peut le sentir dans notre expérience. Il y a tout à coup quelque chose qui m'a touchée, qui est meublé par les souvenirs, par les représentations, et il y a une emprise. Je ne peux pas lâcher. C'est là, ça reste. Peut-être bien que je vois qu'il y a eu ce contact, que ça crée tout ça. Je vois. Je vois même peut-être que ça fait partie de la loi de cause à effet, qu'il y a un karma. mais je ne vois pas clair. Parce que l'expérience est colorée par la saisie et qu'il y a une forme d'agrippement. Et quand on parle de l'avidité, on croit toujours que nous sommes avides pour ce que nous aimons bien, mais nous sommes très avides pour ce que nous n'aimons pas. Nous nous brûlons la main et nous gardons le tison. Donc, de pouvoir un tout petit peu dégager la conscience et voir comment ça se passe. Il y a cette soif qui saisit et cet agrippement qui fait que ça tient, ça reste et ça fait mal. Et pourquoi est-ce que ça reste comme ça? C'est parce qu'il y a cette soif d'avoir les choses parfaites. Quand le Bouddha parle des quatre vérités et que ça va avec l'origine interdépendante, c'est bien que ce souvenir de « Eh oui, ça n'est pas parfait, dukkha » est. Dukkha n'est pas ni une erreur, ni quelque chose, l'ennemi à abattre, mais c'est, et ça émerge. Et lorsque nous sentons l'emprise de l'agrippement, et que nous avons la sagesse de ne rien faire, alors c'est la fin de dukkha. Mais ce qui se passe avec l'agrippement, c'est qu'il y a le devenir. Je veux devenir quelque chose. Le futur s'en mêle. Et il y a une envie d'agir sous cette influence de la soif. Et c'est là que nous sommes envahis par les constructions mentales. Les constructions mentales nous submerge. Et on peut très bien sentir ce sens du devenir. J'aimerais que les choses soient autrement. Il faut que je fasse, il faut que je dise, il faut le sens du devoir est là très fort dans cet aspect de l'origine interdépendante. Si nous observons ce qu'on appelle les sankharas, ce mental, cette capacité du mental d'être en activité, comme moi maintenant, nous pouvons voir d'abord que c'est une capacité de créer des pensées. Il y a des pensées sages. En ce moment, j'essaye en tout cas de vous offrir des pensées sages. Mais il y a des pensées non bénéfiques. Il y a des pensées comme ci, comme ça. Il y a toutes sortes de pensées. Du jugement, Claire en a parlé. Beaucoup d'opinions. D'évaluation. Des imaginaires divers et variés, et de mettre l'attention sur cette capacité de fabriquer des pensées, simplement de voir qu'il y a une capacité dans l'instant. C'est très aidant pour lâcher la fascination conceptuelle. Nous sommes profondément enchantés par nos pensées. A spell, we have a spell. Il y a une sorte de, comment on dit en français, a spell? un sort. Hein. C'est comme si on nous avait jeté un sort et nos pensées nous fascinent. Et de cette manière, nous ne sommes pas libres. Donc, nous pouvons voir cette capacité à l'œuvre. Mais le mental, c'est aussi lui qui crée la perception, c'est-à-dire qui donne sens à ce qui émerge, qui permet l'image, la représentation, la logique, toute la cohérence de l'émotion perturbatrice ou de la perception sensorielle. Il y a une cohérence. Il y a une histoire. Et ça, c'est lié au passé. Et c'est ce qui est conditionné. On peut dire que c'est vraiment conditionné par tout ce que nous avons vécu dans notre vie, dans toute notre vie. C'est ça qui donne sens au contact dans l'instant. Et le troisième aspect de l'intellect, c'est la création. Juste maintenant, vous êtes en pleine création, j'espère, réflexive par rapport à ce que je vous propose, et je suis en pleine création plus la parole. Et ça, c'est le processus même de conditionnement. Nous sommes en train de nous conditionner. Nous sommes en train de construire à l'intérieur quelque chose de plus riche, de plus élaboré, de plus... Nous construisons. Et tout au long de la journée, nous construisons. Et nous pouvons voir comment nous construisons des pensées très bénéfiques et des pensées non bénéfiques. Et quelquefois, nous ne savons pas trop. Est-ce que cette pensée est vraiment bénéfique ou non? Et ce qui mène à l'acte et à la parole, à la naissance, le Bouddha parle de la naissance d'une nouvelle cause pour un nouvel effet. C'est aussi, ou plutôt les constructions, elles se construisent aussi sur la base de nos tendances ou de nos schémas qui viennent de cette première émergence karmique. Lorsque le tout petit enfant naît, il naît avec un bagage. Et on peut le définir chez nous. Est-ce que nous sommes plutôt quelqu'un qui aimons toujours aider les autres? Est-ce que nous sommes plutôt quelqu'un qui aimons être fort, être un peu artiste, rigolo? Est-ce que nous avons besoin toujours d'avoir beaucoup de sens à tout ce que nous faisons? Est-ce que nous sommes sérieux? Est-ce que nous sommes plutôt quelqu'un qui aime assez nous plaindre, qui est un peu dans la non-existence? Est-ce que nous avons beaucoup de peur ou plutôt de la colère? tout ça va colorer au moment des constructions la manière avec laquelle nous allons entrer dans la parole et dans l'acte. Bien sûr, le mental fonctionne en termes de mieux et de moins bien. Le mental coloré par tanha, par la soif, est toujours tiraillé parce qu'il aime tellement l'harmonie, et il a tellement peur de la non-harmonie, il aime tellement la louange, il a tellement peur du blâme. Et derrière, il y a cette peur d'abandon, cette peur de ne pas appartenir, qui est la base même de l'ignorance. Au moment où nous entrons dans un processus d'incarnation, nous perdons le tout. Je suis tout seul sur cette terre, j'ai perdu mon origine. Donc très concrètement, lorsque la pleine conscience est une torche, elle prépare l'esprit. Ça, nous le faisons. Nous préparons l'esprit pour voir par la concentration, par le renoncement. Il y a un grand renoncement dans une retraite. Nous faisons beaucoup d'efforts pour simplifier. L'esprit est préparé. Et quand l'esprit est prêt, c'est-à-dire que le corps est là, qu'il y a suffisamment d'ancrage, qu'il y a pas mal de bienveillance, que je sais plus ou moins endurer, que je sais aussi ouvrir et apprécier l'instant. Alors nous voyons mieux les obstacles, les facteurs de l'éveil. Ces représentations en lien avec la quête intérieure. Et le lâcher-prise se fait. Et au lieu que notre refuge soit dans cette construction d'un moi lié à l'attachement, notre refuge est plus large. Il est lié au bien des autres ou au refuge dans le Bouddha Dharma. Et nous pouvons commencer à nous intéresser au moi en tant que moi. Et tiens, il y a un moi qui est en train de parler juste maintenant. Il y a des moi qui sont en train d'écouter. Et le processus d'identification s'efface tranquillement. Il y a un moi qui est... Je ne sais pas comment il est le vôtre juste maintenant. Le mien, il est content. Il est tranquille. Et alors, c'est ce monde des perceptions devient intéressant. Les émotions perturbatrices deviennent source d'enrichissement. J'ai beaucoup aimé quand Lama Tillman disait qu'il se mettait à deux. Je voulais vous faire faire ça en dialogue conscient. Je me suis dit, attends, c'est peut-être un peu quand même casse-gueule. Se mettre à deux et puis dire à l'autre qu'il est nul, qu'il est au-dessous de tout, qu'il n'y a personne pire que lui. Et puis après lui dire le contraire. Je me suis fait ça, moi, l'autre jour, parce que je vivais un truc qui demandait à travailler cet orgueil, hein, cette forme de vanité qui est l'attachement au moi. Le travail sur les émotions perturbatrices est vraiment au cœur de tout le travail méditatif. Pas pour tous les bouddhistes, mais pour les bouddhistes qui veulent aller vraiment dans une mystique et dans une libération du corps, parce que ces émergences karmiques, les kilesas, ils sont inscrits dans le corps. C'est pour ça que tout le travail psychocorporel est essentiel. Et alors, lorsqu'il y a la conscience et la sagesse, ça devient la fin de ces émergences karmiques. Et lorsqu'il y a la fin de ces émergences karmiques, c'est la fin de cette conscience individuelle. Au lieu que je fasse ce mouvement-là, je fais celui-là. Et avec la fin de cette conscience individuelle, c'est la fin de la création d'un moi séparé de toi, dont j'ai peur, ou dont je suis jalouse, ou contre qui je suis en colère. Et lorsqu'il y a la fin de cette notion de moi et toi, que je sais que je pourrais être toi, c'est la fin de ce refuge dans les six sens. Dans ce que je vois, je pense, je sens, je ressens, j'entends. Et avec la fin de ce refuge dans les six sens, c'est la fin du contact. Peut-être qu'il y a un contact, mais il n'y aura pas de poids à ce contact. Donc pas d'émotions perturbatrices et de perceptions sensorielles puissantes. Pas de saisie et pas d'agrippement. Et s'il n'y a pas d'agrippement, eh ben, il n'y aura pas de devenir. Je n'aurai pas besoin d'être quelque chose. Je pourrai être comme je suis. C'est ok, bon. Et quand je commence à accepter mon conditionnement ou à l'incarner vraiment, l'habiter, entrer en amitié, alors il y a de moins en moins de naissances d'actes négatifs pour reproduire la roue, pour reconstruire la roue du samsara. Et pour finir, il n'y en a plus. Il n'y a pas de naissance de quoi que ce soit de non bénéfique. Et quand il n'y a pas de naissance, il n'y a pas non plus de mort. Et s'il n'y a pas de mort du non-bénéfique, il n'y a pas de mort du bénéfique non plus. Donc nous n'avons plus besoin d'avoir peur de perdre. Sans la création d'un moi sans attachement, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de mort du moi, il n'y a pas de peur. Et le chemin est parcouru. Et c'est la fin de la souffrance. Je vous lis dans le Samyutta Nikaya. Et voilà, moine, la noble vérité de la fin de la souffrance. C'est l'effacement et la cessation totale, le renoncement, l'abandon, la libération et le lâcher-prise de l'agrippement lui-même. Parmi toutes les qualités spontanées ou construites, la qualité de non-passion est considérée comme suprême. La disparition de l'intoxication, l'élimination du désir, le déracinement de l'attachement, la démolition de la roue du samsara, la destruction de l'agrippement, la non-passion, la cessation, la réalisation de la libération. Ceux qui ont confiance dans la qualité de la non-passion ont confiance dans ce qui est suprême, et pour ceux qui ont confiance dans le suprême est le résultat. Dans ce non-besoin de devenir, dans cette non-naissance, cette non-mort, ce n'est peut-être pas ce que le moi désire, parce qu'il ne sait pas à quel point c'est bon, et c'est aussi ça que nous lui apprenons. Pour moi, ce qui rend tous ces 12 aspects de la dependent origination vraiment précieux, c'est que c'est les vœux du bodhisattva. Je veux revenir sur cette terre pour aider les autres, ceux qui sont encore dans l'ignorance. Et ça, c'est quelque chose qui peut nous porter dans l'exercice de la méditation et qui est très bienfaisant. Et qui, en plus de ça, a un effet sur le corps et l'esprit. Cet altruisme. C'est pour ça que tout ce qui se passe aujourd'hui dans la société avec le Covid, où la société tout entière n'a qu'un désir puissant, c'est de vivre, 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 est questionnable. Peut-être qu'on ferait mieux d'employer notre temps à travailler à notre libération. Parce que la préciosité de la vie humaine est quand même liée à la générosité, à cet éveil de la source à l'intérieur de nous-mêmes. De vivre pour nous gêner les uns les autres, c'est peut-être pas très utile. cette manière de rester dans cette roue du samsara. Mon confort, mon machin, mon truc. À un moment donné, il y a une détermination à avoir pour en sortir. Et moi, je suis toujours très touchée de voir l'effort que chacun fait dans une retraite. Parce qu'il y a ces émergences karmiques. Et elles ne sont pas douces. C'est quelquefois puissant. Ça met à mal. Ça met à mal notre orgueil. Notre petit moi qui tient. Il a besoin d'être quelque chose. Et on lui demande d'être rien. Et c'est beau. Parce que c'est une manière d'employer la vie plutôt que de la laisser nous employer. Je vais finir encore par une parole dans le Digamikaya. Bhikkhu, c'est en ne réalisant pas, en ne pénétrant pas les quatre vérités nobles, que ce long passage de vie et de mort existe et qu'ils sont expérimentés pour moi comme, par moi comme par vous. Quels sont ces quatre? La noble vérité de l'existence, de la souffrance, de l'origine de la souffrance, de la cessation de la souffrance, et la noble vérité du chemin qui mène à la cessation de la souffrance. Mais alors, Bhikkhu, si ceci a été réalisé et pénétré, les racines pour toute nouvelle existence sont coupées. Pour tout ce qui mène à un nouveau devenir, et il n'y a plus de futur devenir. Sauf en tant que bodhisattva. Nous pouvons prendre un moment en silence.